Merci beaucoup à Émilie d'avoir organisé pour son bel accueil à ce colloque. Alors effectivement, en termes d'appropriation française de l'Ouest, celle dont je m'apprête à vous parler est particulièrement accaparante, puisqu'il s'agit du romanesque du Trappeur dans le roman populaire français, dans un certain roman populaire français du XIXe siècle. Traiter de ce sujet, traiter de ce type de roman d'aventure implique d'abord, à mon sens, de se délaster d'une forme d'empreinte rétinienne qu'à la faveur du XXe siècle et d'Hollywood, le western américain a laissé dans nos esprits. Le roman dont je vais vous parler est absolument antérieur au plan historique, mais aussi au plan éthico-esthétique, au western et au mythe de la frontière qui en est d'une certaine façon la vulgate principale. Donc je vais essayer de me placer dans les pas d'un Richard Cracroft qui préconisait par exemple de s'habituer à une idée non américaine de l'Ouest. Ici c'est une idée française dont je vais vous parler qui me semble assez bien représentée par le franc trappeur du roman populaire que l'on va aborder et par la prairie qui est la manière de nommer l'Ouest qu'utiliseront les auteurs dont je vais vous parler aussi. Alors un mot rapide sur ce corpus, il est inauguré en 1850 par l'apparition en feuilleton du Coureur des Bois de Gabriel Ferry. Il est systématisé, diffusé par les dizaines de romans que Gustave Aimard va consacrer aux trappeurs et aux coureurs des bois entre 1858 et 1883, la date de sa mort, et sa queue de comète est constitué par des romans plus sporadiques d'auteurs comme Louis Bayeul, Louis Noir, Pierre Ferragut. Tous ces romans ont comme lieu de convergence cette figure de trappeur, qui est leur figure centrale, et qui implique de faire un petit détour par l'histoire, mais dans une perspective bien particulière. Vous avez là une carte dont je vous dis tout de suite qu'elle est anachronique, mais qui présente l'intérêt de relever toutes les zones qu'à un moment ou un autre, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, la France a compté parmi sa sphère d'influence en Amérique du Nord. C'est ce souvenir métamorphosé, parce que 1850, c'est plus tout à fait l'époque de l'aventure coloniale française en Amérique, qui va irriguer le roman dont je vais vous parler. Donc, les forts et les comptoirs qui étaient très nombreux au Canada et en Louisiane n'en étaient pas moins éloignés les uns des autres, surtout pour un tel territoire, et les foires de commerce s'étaient rendues insatisfaisantes pour fournir les pelleteries attendues d'un si grand empire, puisque l'empire français en Amérique était un empire du commerce des peaux. Il a donc fallu inventer une fonction originale, celle d'un traiteur de fourrure particulier, contraint de voyager en solitaire pour s'adjuger le concours des chasses amérindiennes et négocier les prises avec les Indiens. On l'appelait coureur des bois. Il y a des variantes. Lorsque ce chasseur chassait lui-même, seul ou en équipe, on pouvait parler de voyageur ou de trappeur. Alors l'absence d'exploitation intensive du territoire marquait la colonisation française en Amérique, ce n'est pas du tout une colonisation d'accaparement foncier, de balisage du territoire. Ce n'est pas comme ça que se représentait leur rôle en Amérique. Ce n'est pas non plus les moyens qu'ils avaient pour coloniser en Amérique, donc les Français. Il fallait donc traiter à tout point de vue avec l'Indien, traiter dans tous les sens du terme, voire s'allier et même convivre d'une certaine manière avec lui pour emporter ses faveurs, d'où la perpétuation de nombreuses dynasties métissées, fruit d'alliances entre des coureurs des bois et les Indiens, parmi lesquels ils finissaient souvent par vivre. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est une économie sociale, c'est une économie culturelle qui s'articulait autour de l'enjeu du commerce des peaux et qui a donné à la colonisation française en Amérique son originalité qui me semble, et qui semble à d'autres auteurs mieux informés que moi, sans équivalent à l'époque. Des mœurs par exemple inconcevables dans les bastions de Nouvelle-Angleterre qui sont pourtant limitrophes du Canada. On a pu parler, le grand historien Richard White a parlé de middle ground pour caractériser ce consensus permanent, ce modus vivendi particulier entre Indiens et Français autour de la fourrure en Amérique, fruit d'une colonisation donc largement extensive, peut-être à l'exception des colonies du Canada qui étaient mieux divisées et mieux administrées, et aussi d'un rapport, je dirais, désinvolte vis-à-vis de la propriété des terres et du balisage territorial. C'était donc, d'un point de vue historique, déjà d'une forme de flou quant aux frontières que s'était justifiée l'émergence médiatrice du coureur des bois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne fais pas de l'histoire un lieu de translation automatique des figures de l'histoire, donc vers le roman, mais qui a néanmoins, dans la conduite française des affaires en Amérique, un art, je ne dis pas un art épiphanique, mais au moins un art pragmatique, contraint par les circonstances, du consensus, de l'accommodation, de l'alliance, qui va être ensuite extrapolée un siècle plus tard, autour de 1850, par diverses médiations intermédiaires que je vais essayer d'explorer. Alors, malgré ce patrimoine colonial au XVIIIe siècle, le coureur des bois ne va pas avoir un succès énorme dans la littérature, contrairement à l'Indien, qui commence à se parer, et je suis content que Peggy ait parlé juste avant moi, de tous les hygiénismes, de toutes les positivations primitivistes. On n'en fait pas de même au XVIIIe siècle pour le coureur des bois, surtout chez les auteurs français, qui considère en quelque sorte que c'est un personnage difficile à manœuvrer, difficile à appréhender. Il avait causé beaucoup de problèmes à l'autorité coloniale française, parce qu'il était devenu très rapidement, difficilement contrôlable. Et Chateaubriand, dans ses mémoires d'outre-tombe, en parlera encore comme le bâtard de la nature civilisée et de la nature sauvage. Donc en quelque sorte, une forme de héros hybride et incommode, trop blanc pour recevoir une idéalisation naturelle, trop compromis dans la maraude pour être un Français digne de foi. Il faudra donc passer par d'autres pays et d'autres auteurs pour que l'association entre un chasseur blanc en Amérique et les idéaux d'hygiénisme et de positivité sauvage du XVIIIe siècle soit réopérée. C'est ce que, dans un registre poétique, Lord Byron va faire dans un chant de Don Juan. Sans se saisir du coureur des bois comme personnage franco-canadien d'aventure en Amérique, mais en se saisissant du pionnier Daniel Boone, pour néanmoins lui associer contre toute vraisemblance, Daniel Boone était un pionnier, un défricheur avant tout, et c'est comme ça qu'il est entré dans le mythe américain de la frontière d'ailleurs, Lord Byron en fait une espèce de rejeton complètement détemporalisé du sauvage qui vit en « child of nature », au milieu des Indiens, dans une espèce de « deepest maze » qui représente l'Amérique et qui lui sert d'écrin. Donc il y a vraiment une vie paisible dans la nature qui est, contre toute vraisemblance, prêtée à Daniel Boone. La version romanesque de cette association entre un chasseur blanc et la pureté ou la noblesse sauvage va être vraiment actuée par les 5 romans du cycle de Fenimore Cooper, et leur héros, Bas de Cuir. Alors Bas de Cuir, même si son auteur est américain, c'est tout sauf un pionnier, c'est tout sauf un conquérant de l'Ouest. C'est en quelque sorte un homme qui recule, qui recherche un en-deçà ou un au-delà de la frontière, c'est-à-dire un dernier espace aéré, un dernier écrin de nature, encore une fois. Sa conquête donc est plutôt une conquête à rebours, dans une dynamique inversée avec celle qui prévaut notamment à l'ère jacksonienne aux États-Unis, de conquête de plus en plus active. Loric Guillot parle justement de plongée régressive pour la perspective éthico-esthétique qui donne vie à Bas de Cuir et l'évocation d'un passé archaïque, redoublé par l'ordre de parution des romans d'ailleurs, puisque les derniers romans que publiera Fenimore Cooper remonte à ce que l'aventure de plus jeune, remonte vraiment aux premières années de Bas de Cuir dans les forêts américaines, un peu à rebours de ce qui se passe dans l'histoire réelle à la faveur de la conquête de l'Ouest. D'ailleurs, les sources de Fenimore Cooper sont moins américaines qu'européennes, c'est ce qu'a souligné Richard Slotkin. Et alors qu'il sera pendant longtemps très sévèrement reçu en Amérique. Je pense à l'essai de Mark Twain à la fin du XIXe siècle, qui est très sévère avec lui. Il trouvera en France, à l'époque, ses plus diligents appuis, George Sand, dont on a déjà parlé, mais aussi Balzac, mais aussi Dumas. La réactivation du personnage du trappeur en littérature française, dans le roman populaire, est donc permise par Fenimore Cooper, mais aussi par un événement ou une convergence d'événements, c'est tout ce qui touche à la ruée vers l'or à partir de 1848. C'est un contexte d'émulation démographique déjà, mais aussi d'émulation imaginaire qui pousse un regain d'intérêt pour l'Amérique. Néanmoins, Gabriel Ferry, en écrivant Le coureur de bois, ne va pas écrire une aventure de chercheur d'or, en tout cas pas au premier chef. Il va en profiter de cet élément d'actualité pour remettre en scène un personnage bien plus ancien, celui du coureur des bois, là aussi contre toute vraisemblance historique parfois, puisqu'il le met en scène, ce franco-canadien bois rosé qui est d'origine normande, en plein sud-ouest américain, dans l'état du nord du Mexique, l'état de Sonora. Et il va donc, ce personnage, se mêler aux différentes intrigues des chercheurs d'or, à des intrigues politiques aussi dans le nord du Mexique qui préfigurent un petit peu les romans de Codillesque et de cet ordre-là. Mais malgré tout, Gabriel Ferry trouve les moyens de camper un coureur des bois à nouveau, quitte à frôler l'anachronisme, avec un portrait de ce personnage qui correspond bien à ce qu'on peut retenir d'un trappeur visuellement aujourd'hui, c'est-à-dire un vêtement mixte, le fameux bonnet, la fameuse corne de buffle et l'inévitable carabine ou rifle à long canon qui singularise ce personnage. Je vais vous montrer quelques éléments d'iconographie un peu plus tard. Donc si Gabriel Ferry fait un premier pas, c'est malgré tout Gustave Aimard qui, à mon sens, va lancer la poétique médiatique du trappeur dans le roman d'aventure. Il va construire cette figure par ressassement. Et cette figure, il me semble intéressant déjà de remarquer sa consistance extrêmement littéraire, extrêmement déterritorialisée, au départ d'un substrat historique de plus en plus ténu et de plus en plus mythifié par les Français. Puisqu'évidemment le middle ground et l'alliance pragmatique entre Indiens n'est pas non plus l'épiphanie sauvagiste absolue dont parleront les auteurs comme Gabriel Ferry et surtout Gustave Aimard. Donc il me semble intéressant de caractériser ce personnage en termes de franc trappeur à cause de la double étymologie du terme franc. Il y a d'abord l'idée de franchise, c'est-à-dire l'idée de zone d'exemption. Le trappeur est ce héros qui bénéficie d'une liberté naturelle, donc inconditionnelle dans la prairie, donc une liberté qui n'a pas une nature historique. En d'autres termes, il fait advenir une liberté qui est son seul point de vue, puisqu'il arrive en parfaite adéquation avec le milieu, j'y reviendrai, dans lequel il évolue. Enfin, il y a aussi l'idée de francité, évidemment, même si le lien est ténu avec les anciennes colonies françaises, il se veut l'héritier fantasmatique du génie colonial de la Nouvelle-France, ce génie qui aurait consisté à établir une relation parfaite d'entente idéale entre les coureurs des bois, les autorités coloniales et les différentes tribus indiennes avec lesquelles étaient amenés à traiter les Français. J'ai parlé de sa consistance littéraire, c'est plutôt ça qui m'intéresse, donc des thèmes qu'il convoque pour se construire, ce trappeur. C'est d'abord un chevalier sauvagiste, un homologue blanc et perfectionné du noble sauvage. J'en reprends quelques caractéristiques. Il y a les noms et les baptêmes totémiques. Chaque fois qu'ils rentrent dans l'aventure, ces trappeurs, ces coureurs des bois, même s'ils ont un nom civil avant d'entrer dans l'aventure de la prairie, ils adoptent un nom totémique. C'était déjà Bois Rosé chez Gabriel Ferry. Ce sera Balle Franche, Sans Piste, Belle Humeur, Bon Affût, Cœur Loyal chez Gustave Aimard. Il systématise, Gustave Aimard, cette valeur de seuil associée à l'octroi d'un nom totémique. Il y a enfin l'idée que le coureur des bois est le frère d'immanence de l'Indien. Il n'affronte l'Indien, le coureur des bois, dans ses romans, que par escarmouche parahistorique, juste conduite pour les besoins de l'aventure, mais jamais sans grandes conséquences. L'aventure est un frétiment qui revient au stade d'harmonie de départ à la fin du roman. Il y a des scènes d'adoption entre coureurs des bois et indiens très nombreuses qui font référence là aussi à l'imagerie la plus primitive qui était d'abord associée à l'indien au début du siècle. Et il y a enfin chez Gustave Aimard, c'est son originalité un peu axiologique, une réhabilitation du bois brûlé, c'est-à-dire de l'héritier métissé des coureurs des bois et des différents villages indiens. Dans un contexte de taxinomie racialiste grandissant au XIXe siècle, ça me semble aussi intéressant à remarquer. Gustave Aimard est cet auteur qui fait l'éloge du métissage autour de 1870, ça c'est étonnant. Enfin, c'est un aristocrate sylvestre, on en a déjà parlé. L'expression nature d'élite ou âme d'élite revient très très souvent pour le caractériser. C'est aussi un justicier qui s'emploie à faire le bien dans l'espace où il évolue. Il a une physionomie ouverte, franche et loyale qui appelait la sympathie et plaisait de prime abord. Voici l'une des descriptions qu'on peut trouver très stéréotypée sous la plume d'Aimard. Le point qui m'intéresse le plus, et c'est avec ça que je vais continuer et terminer mon propos, c'est que le coureur des bois est un héros pédestre. C'est un chevalier, certes, mais un chevalier sans monture. Je ne dis pas qu'on ne le représente jamais à cheval, mais le cheval n'est pas surdéterminant pour caractériser son héroïsme. J'entends dire qu'il y a une préférence éthico-esthétique pour la marche chez ce personnage, qui est perceptible déjà dans les déclarations de bas de cuir chez Fenimore Cooper. J'aurais pu les reprendre si vous en voulez, je pense que j'en ai dans mes notes. Chez Gabriel Ferry, on parle de Bois Rosé comme d'un triste cavalier qui affiche plusieurs fois son mépris pour le cheval. Vous voyez qu'on est déjà loin, par anticipation, du fétichisme que les Américains feront du cheval à la faveur de la conquête de l'Ouest, avec Buffalo Bill qui tout tournait autour de la culture du cheval dans le mythe de la frontière. Ici, on a une préférence éthico-esthétique pour la marche. Chez Gustave Aimard, encore une fois, systématisation du procédé. Valentin et Curumilla circulent, je cite, selon la coutume indienne, plus sûre et tout aussi prompte que sur un cheval. C'est dans le chercheur de piste. Et Bonafu, dans l'éclaireur, dira à ses compagnons, laissez vos chevaux, ils nous sont inutiles. Ce n'est pas un voyage que nous entreprenons, nous commençons une chasse à l'homme. Il nous faut être libres de nos mouvements, la piste que nous suivons est difficile. La piste et la chasse à l'homme se distinguant du voyage, il faut proscrire le cheval pour celle-là, tandis qu'il est nécessaire pour celle-ci. Je vais y revenir sur cette distinction. Un petit point iconographique, même si je suis désolé de ma manière dont je vais parler d'iconographie, je ne suis pas historien de l'art, mais néanmoins les quelques bribes de caractérisation du trappeur se retrouvent ici dans ces trois illustrations d'époque. Vous voyez qu'on a ici une position d'homme assis, d'homme adossé à la nature, soit à un tronc, soit assis sur une pierre, qui porte son fusil, qui est assez solitaire et qui donne l'impression d'être un peu un appendice du milieu naturel où il se trouve. La troisième illustration tirée d'un roman de Louis Noir me semble encore plus extrême dans cet archaïsme pédestre. On y représente le trappeur comme le plus primitif des sauvages de la fin du XVIIIe siècle, avec un arc à flèche, avec un mélange d'oripeaux et de feuilles. La seule distinction qui permet de nous assurer qu'il s'agit d'un trappeur, c'est la petite moustache à la française. Donc là on a un point un peu limite de cette représentation sauvagiste du trappeur, et là on voit aussi, on peut mesurer toute la différence avec les pionniers américains d'un point de vue iconographique. J'en reviens à la marche et aux aspects pédestres de l'évolution du trappeur dans la nature. Qu'induit cette conduite de piéton du point de vue de la consistance de l'espace où évolue le trappeur? Aimard parle lui-même de système du désert. Les romans d'Aimard, dans leur succession, mettent en place un système du désert que je me sens donc autorisé à qualifier en termes de chronotope, pour parler comme Bakhtine, et associer ce chronotope au terme de prairie, qui est le plus récurrent pour qualifier l'espace. Ce chronotope commence par proscrire toute route préétablie. Ce n'est pas un espace où on chemine sur les routes, c'est un espace où on doit se repérer de manière tout à fait alternative. Il le dit, Gustave Aimard, la perspective n'existe pas, c'est à peine si la vue peut s'étendre à 30 ou 40 pas dans toutes les directions. C'est un dédale où les routes n'existent pas. Le trappeur sera donc ce héros de la déroute qui refuse la forme de téléologie que développera le mythe de la frontière par rapport à l'Ouest, c'est-à-dire de l'avancée pionnière qui défriche, qui se trace des routes, qui établit des établissements et des voies de communication. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le héros immanent qu'est le trappeur dans l'espace naturel. C'est une forme d'héroïsme oblique qui va s'appuyer sur un expédient, ou plutôt un outil que j'appelle la démarche indiciaire, parce qu'en effet, malgré sa touffeur, malgré son absence de route, la prairie n'en est pas moins lisible, c'est-à-dire qu'elle appelle à la lecture au moins. C'est un chaos, mais qui appelle le décryptage pour qui sait s'adosser à elle et s'y retrouver. En effet, chez Aimard, l'espace, c'est ponctué d'une série de signes naturels qui aident le héros à se repérer. Il y a une forme de quadrillage sémiologique discontinu dans la prairie. Il le dit, je cite, « Tout a une raison d'être dans la prairie, tout est analysé et commenté, une feuille ne tombe pas d'un arbre, un oiseau ne s'envole pas, sans que l'on sache ou l'on devine pourquoi la feuille est tombée, pour quelle raison l'oiseau a pris son vol. » C'est dans Balfranche. La prairie est donc cet espace qui rétablit de manière un peu harmonieuse, irénique, toutes les communications que le romantisme avait voulu percevoir entre la nature et le personnage qui évoluait, de manière assez radicale et presque structuraliste parfois, à lire certains extraits. Je vous ai donné deux extraits que je n'ai pas le temps de lire complètement, mais qui montrent tous deux que ce qui qualifie, ce qui surqualifie le personnage du coureur des bois ou du trappeur dans la prairie, c'est sa capacité à se diriger en fonction des signes. C'est pas sa capacité à tuer, c'est pas sa capacité, c'est même pas tant son habileté aux armes que sa capacité, pardon, à s'adosser au tiers naturel pour se frayer un chemin, pour retrouver des ennemis ou pour se protéger lui-même des ennemis qui sont tout aussi doués indiciairement que lui, les Indiens, etc. Et donc à l'héroïsme du défrichage, qui sera celui des pionniers de la frontière, je pense que le trappeur substitue un héroïsme plutôt du déchiffrage. C'est un lecteur, c'est un décrypteur de la nature. Gabriel Ferry le dit déjà, les coureurs des bois sont accoutumés à lire sur la surface de la prairie comme dans un livre ouvert. Cette métaphore du livre organique est absolument, et là aussi ça nous renvoie beaucoup plus aux générations romantiques, à une tradition d'écriture qui remonte au 19e siècle français, qu'à une lecture de l'histoire évidemment. Donc cette métaphore du livre organique est surdéterminée chez Aymard, avec des accents très panthéistes. L'Amérique est le plus beau livre écrit par Dieu lui-même dans les plaines, sur les montagnes et jusque dans le moindre brin d'herbe. Je conclus en vous disant donc que cet héroïsme du déchiffrage et ce romanesque que j'ai appelé la romanesque de la lutte des traces, c'est-à-dire qui installe dans un espace immanent et refermé sur lui-même une forme d'aventure sans conséquences historiques, où on se repère, où on s'affronte par reconnaissance des signes, et puis où les choses retombent, c'est-à-dire une aventure où l'espace naturel ne subit pas d'effraction. C'est un espace pour lequel le trappeur apparaît surqualifié, dans ses zigzags pédestres, dans sa reconnaissance sémiologique des lieux. Ses aventures, donc dans cette lutte des traces, engagent des dynamiques d'affût, de traque, de dissimulation, de marche, de contre-marche. C'est donc un contre-héroïsme soft, éthéré, cosmique, d'une certaine manière, spirituel, et d'assemblage littéraire qui est bricolé, même s'il ne s'agit que de romans populaires, par Gustave Aymard. Et il me semble avoir trouvé, juste pour finir, dans Charles Péguy, c'est la dernière de cette tapisserie, Ève, en 1913, une métaphore au détour d'un vers qui montre que l'auteur bien compris cette consistance particulière de l'héroïsme du trappeur qui a sans doute prévalu dans des livres que Péguy a pu lire, puisqu'il fait partie de la première génération littéraire vraiment imbibée par la massification de la littérature populaire. Il écrit « C'est dans les réseaux du plus ancien trappeur ». Ben voilà, le trappeur est bien ce héros réticulaire qui évolue par reconnaissance des lieux et qui tisse sa toile sémiologique et qui, chez Gustave Aymard, en tire un véritable contre-héroïsme qui, à mon avis, n'a pas d'équivalent en termes de radicalité à la même époque.